Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Nous célébrons aujourd'hui, le 8 mai 45, la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Un Français sur 10 dit n'avoir jamais entendu parler de la Shoah, enquête IFOP. 10% et même 20% des jeunes ne savent pas ce qu'est la Shoah. N'est-ce pas avant tout l'échec de l'éducation nationale ?
On doit faire des progrès pour qu'évidemment ce chiffre tombe à zéro, c'est évident. C'est un chiffre qui d'ailleurs est parfois pire malheureusement dans d'autres pays de l'Union européenne. Nous faisons tout un travail sur l'enseignement de la Shoah, travail donc qui va assez en profondeur. Je vais d'ailleurs assez souvent sur le terrain pour voir ce qui se passe dans les classes et je peux vous dire que pour les 80% restants, ils l'apprennent bien. Donc on a ce problème avec, disons, pour 20% des jeunes. Il faut maintenant que l'on aille plus loin. On a tout un travail avec la Fondation de la Shoah, par exemple, qui va nous permettre d'avoir encore plus de force. Je crois que ce qui est important vis-à-vis des jeunes, c'est aussi de leur montrer des témoignages, qu'ils voient des choses concrètes sur le sujet, comme par exemple les visites à Auschwitz, au camp des Mille, et puis les déportés qui sont encore en vie, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux et qui visitent les classes. Nous encourageons beaucoup cela, et puis c'est présent dans les programmes. Et donc c'est un sujet que j'ai pris vraiment à bras-le-corps, et je suis certain que nous allons bien progresser sur ce point.
Il y a 17 ans, en 2002, Georges Bensoussan publiait « Les territoires perdus de la République » pour dénoncer la montée de l'antisémitisme dans des lycées de banlieue, la difficulté d'y enseigner la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est manifestement toujours un sujet tabou.
Non, ça n'est pas un sujet tabou du tout. S'il y a bien, je crois, quelque chose que je fais, c'est de ne le rendre pas tabou. Ça n'est pas tabou, c'est quelque chose
mais
qu'on doit...
Mais ça l'est dans certains établissements.
Oui, mais ça n'est pas tabou de dire que certains le croient tabou. Du coup, nous prenons le problème à bras-le-corps. On n'est pas sur la défensive, on est à l'offensive. Ça signifie, par exemple, que nous avons créé à l'échelle de chaque rectorat de France des équipes laïcité et lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui interviennent dans les établissements chaque fois qu'un professeur signale un problème de ce genre, de façon à ce que ce soit un travail d'équipe ensuite qui soit réalisé avec les élèves et leurs parents. Mais encore une fois, il y a des problèmes, donc il ne faut pas les nier, il ne faut pas non plus les exagérer. Moi, je suis souvent allé dans des lycées de différentes banlieues de nos grandes villes, avec donc des élèves de différentes origines. La plupart d'entre eux ont parfaitement intégré cet enseignement et ne sombrent pas du tout dans l'antisémitisme. Donc il faut quand même ne pas se faire peur quand il y en a 20% qui l'ignorent ou qui font exprès de l'ignorer, ça signifie quand même qu'il y en a 80% qui sont dans une autre logique.
Jean-Michel Blanquer, en novembre 1933, Adolf Hitler accusait une petite clique internationale et déracinée de trahir les intérêts des travailleurs allemands. Les nationalistes tiennent-ils aujourd'hui le même discours selon vous ?
Chaque époque est particulière et on peut jamais dire que c'est exactement pareil. Mais on voit bien qu'il y a un mauvais vent qui souffle, non pas sur l'Europe, mais sur le monde. Et que ce vent, cette tendance a pour nom nationalisme, repli sur soi. Et c'est lié à des phénomènes profonds. C'est la mondialisation, la technicisation de notre monde, le fait que les gens ne savent parfois plus très bien où on va, donc ils ont besoin de se donner des points de repère. Et ce type de formation donne des explications faciles. Et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes phénomènes dans le monde, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre ou dans certains pays d'Europe. Donc le phénomène, il est profond et il est mondial, et on doit y réagir non seulement en faisant des comparaisons avec le passé, mais aussi en se projetant vers le futur et en ayant des solutions pour le futur. Je crois que c'est ce qui caractérise la liste que l'on présente aux élections européennes, c'est qu'elle ne se contente pas simplement de dire attention à ces nationalistes qui nous ramènent aux années 30, mais elle parle aussi des années 2030 et de ce que l'on doit faire pour avoir tout simplement un monde meilleur, prendre le meilleur des caractéristiques du monde qui vient, et nous protéger aussi contre toute une série de problèmes, comme les problèmes écologiques ou d'autres problèmes graves et de nature mondiale qui nécessitent l'échelle européenne pour être résolus.
En novembre dernier, le président a dit « L'Europe risque de se démembrer à cause de la lèpre nationaliste ». Vous diriez que Marine Le Pen cherche à démembrer l'Europe ?
Écoutez, certainement, je pense que c'est explicitement dans son programme que d'en finir avec l'Europe d'une certaine façon, même s'ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin dans cette campagne, ce qui fait d'ailleurs que moi je ne sais pas très bien quel est ce programme, hein, où on dit qu'on
change l'Europe de l'intérieur.
Mais finalement, ça ne m'intéresse pas tellement de commenter le programme des autres, parce que, en l'occurrence, justement, je ne le comprends pas très bien, je le trouve assez illisible. Et en tout cas, je comprends que c'est contre l'Europe et que c'est toujours l'Europe mais. Moi, je dis l'Europe oui. J'aime mon pays très profondément, et ça, je ne dois pas laisser ça aux nationalistes. Nous avons un amour de la France qui est profond. Et c'est précisément parce que nous aimons la France que nous voulons aussi une Europe forte, parce qu'on en a besoin dans le monde tel qu'il est. Vous savez, on parle de beaucoup de sujets, parfois un peu secondaires, alors même que nous sommes à une période historique où beaucoup de choses changent, où on a la montée de la Chine, la montée de la rivalité des États-Unis et de la Chine, des puissances comme la Turquie, par exemple, qui représentent certains dangers, etc. Et au moment où arrivent ces phénomènes géopolitiques très graves, parfois nous regardons ailleurs. Nous ne nous en sortirons que si nous avons une Europe très forte, et avec une France forte, évidemment, dans cette Europe forte, et nous en avons besoin sous tous les angles, que ce soit pour la maîtrise des flux migratoires, que ce soit pour les enjeux de défense même, et bien entendu, même certains enjeux économiques et sociaux.
Jean-Michel Blanquer, les enseignants referont grève demain contre la réforme de la fonction publique. Ils ont déjà fait grève en mars, grève en avril. L'éducation nationale doit-elle sortir de la gréviculture, comme le disait votre numéro 2, Gabriel Attal, à propos de la SNCF?
L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Hein. Nous avons eu les plus faibles taux de grévistes de l'histoire de l'éducation nationale au cours des deux dernières années. Hein, que c'était particulièrement vrai en 2017-2018, mais ça reste vrai en 2018-2019.
Donc vous ne redouterez pas la grève de demain ?
Non, c'est une grève de la fonction publique. Elle aura une certaine importance. Je pense qu'on peut s'attendre à un taux d'environ 15% dans le premier degré, hein, qui sera le taux le plus élevé. Ce sera moins fort dans le second degré. Donc c'est un peu pareil pour d'autres chiffres que j'ai commentés. On peut... effectivement, regarder de près les 15%, mais n'oublions pas ceux qui ne font pas grève, n'oublions pas ceux qui, tout simplement, ne sont pas dans ce que vous avez dit.
Alors, les stylos rouges sont des profs en colère, hein, organisés à la manière des gilets jaunes. Lundi, certains d'entre eux ont été reçus au ministère et ils affirment que votre directeur de cabinet leur a promis que les enseignants seraient bientôt augmentés. Est-ce que vous confirmez? Et si vous confirmez, de combien? Qui sera concerné et quand?
Alors, c'est pas mon directeur de cabinet qui le dit, c'est le président de la République. Il le dit dans sa conférence de presse, et je peux peut-être...
Votre directeur de cabinet le confirme, donc.
Le directeur de cabinet le confirme, je peux le confirmer aussi. Le président a été très clair dans sa conférence de presse, et je crois que chacun doit noter qu'il a mis l'éducation au centre de sa conférence de presse.
Et j'en étais évidemment très heureux.
Et à un moment donné, il a bien expliqué, d'ailleurs, il l'a relié au sujet de la réforme des retraites, parce que si nous avons une réforme de retraite bien préparée par Jean-Paul Delevoye, qui va nous amener donc à regarder un peu les enjeux d'équité, par exemple au sein de la fonction publique, entre les différents corps. Et si nous voulons qu'il y ait équité au moment de cette future retraite, il faut qu'on ait réussi dans l'intervalle à monter le pouvoir d'achat des professeurs.
Et donc,
c'est le raisonnement mené par le président. Et bien, ça va nous amener, d'ailleurs en lien avec Jean-Paul Delevoye, au cours des prochains mois, dans les discussions avec les organisations syndicales, et bien, à programmer l'évolution du pouvoir d'achat des professeurs.
Donc,
par définition, il faut de la discussion, que ce soit au sein de l'État ou avec les organisations syndicales, mais ça va avoir lieu. Je rappelle que c'est un sujet que j'ai tout de suite pointé dès que je suis arrivé. Il y a un sujet, je l'ai toujours dit. J'ai dit aussi qu'il se posait en des termes différents selon les catégorie de personnel que l'on regarde, et donc c'est un travail à la fois très technique et très budgétaire, et nous allons évidemment l'approfondir, sachant qu'on ne part pas de zéro, parce qu'on a déjà fait quelques avancées ces derniers mois.
Est-ce que ça vous paraît excessif de garantir à tous les profs un salaire minimum de 2000 euros?
Ah, je trouve que c'est un bel objectif. Je pense que c'est typiquement le genre d'objectif que je souhaite me fixer. Je ne peux pas être plus précis à ce stade, ce serait absurde de mettre la charrue avant les bœufs.
Jean-Michel Blanquer, vous avez décidé de fermer une école musulmane à Échirolles, près de Lyon, en affirmant qu'elle dispense un enseignement d'inspiration salafiste. L'avocat de l'école a porté plainte en diffamation. Est-ce que vous maintenez le mot salafiste ou vous vous rétractez ?
Bon, j'ai dit d'abord d'inspiration salafiste. Ce mot d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé. Il a été dans la bouche du procureur avant moi, en première instance, quand il y a eu une mesure de fermeture de cette école, puisqu'il faut savoir qu'en première instance, cette école a été déclarée fermée donc par le pouvoir judiciaire. Désormais, c'est en appel, et comme l'appel est suspensif, eh bien, l'école continue à fonctionner. Ce qui ne me paraît pas du tout souhaitable, c'est mon devoir de protéger les enfants, bien sûr, c'est le premier critère, mais c'est aussi mon devoir de protéger la société. Et en l'occurrence, j'ai donc enjoint les parents à scolariser les enfants dans une autre école. Maintenant, qu'il y ait des manœuvres d'intimidation du type m'attaquer en diffamation, évidemment, je ne céderai pas à ça, et ça a plutôt tendance à raffermir ma position, parce que je pense qu'il y a des secteurs qui cherchent à tester la République, eh bien, qu'ils la testent, ils la trouvent en face, debout et forte.
Justement, le président a dénoncé l'islam politique qui veut faire sécession avec notre République. Est-ce que les écoles musulmanes hors contrat sont des foyers de sécession ?
Ça peut être le cas, bien sûr. Pas toujours. Il faut regarder au cas par cas. On ne doit pas avoir une vision aveugle. Je ne mets pas un signe égal entre musulmans et islamisme radical. Au contraire, il faut au contraire, dans notre société, encourager tous ceux qui veulent vivre leur foi de manière normale et dans le respect des valeurs de la République. Donc on ne doit surtout pas dire que tous sont à mettre dans le même panier. Par contre, il faut avoir une vigilance. Il ne faut pas faire semblant de ne pas voir le danger que peuvent représenter certaines dérives. Et donc, au cas par cas, les équipes de l'éducation nationale regardent ce qu'il en est. Nous avons voté une loi l'année dernière pour nous permettre d'empêcher les ouvertures. Donc nous avons pu beaucoup plus empêcher d'ouvertures que ça n'avait été le cas dans le passé. Et maintenant, nous faisons aussi des fermetures. Et les fermetures, évidemment, requièrent un certain nombre de critères juridiques. Et donc, au cas par cas, nous procédons à des fermetures. Je le fais à la fois en toute sérénité, en toute justice, mais en toute lucidité.
Combien de fermetures ?
On en est déjà à 3, mais je ne peux pas vous dire les fermetures du futur. Par définition, ça, c'est au cas par cas, donc ça dépend. Mmh. Mais en tout cas, on instruit les dossiers de façon à arriver à des conclusions concrètes et pratiques.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous.
C'était le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, interviewé par Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 ce matin. Nico